Bonsoir à tous. Donc, je suis heureux de vous présenter cet exposé sur le Messie selon Daniel. Ça serait presque le titre d'un morceau de musique. On pense au Messie selon Handel. Mais ce n'est pas de ça qu'il sera question. D'abord, je voudrais dire que j'ai été moins courageux que Samuel. Je me suis attaqué à un livre un peu plus connu, que même les enfants connaissent. On connaît l'histoire de Daniel. Je ne vais pas me limiter à voir dans ce livre l'annonce du Messie, mais je vais vous faire une présentation de la vie de Daniel, des prophéties de Daniel, et puis plus précisément, dans les prophéties de Daniel, celles qui concernent le Messie. Vous aurez aussi un petit cahier à la fin, mais je préfère vous le donner quand ça sera terminé. Ça vous évitera d'être distrait. Alors, voici mon plan. Donc tout d'abord, peut-être une petite présentation pour situer historiquement l'histoire de Daniel. Daniel, son époque. Ensuite, on va passer en revue les principaux événements de sa vie. Et puis, ses prophéties. Bon, donc dans ses prophéties, il y aura des choses qui concernent le Messie, mais pas seulement. Alors, commençons par son époque. Quelques repères chronologiques, donc on va situer l'histoire de Daniel dans l'histoire du peuple d'Israël, en tout cas du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, qu'on va faire débuter au moment de la traversée de la mer Rouge sous la conduite de Moïse, donc environ 1275 avant Jésus-Christ. Donc tout ceci va se terminer au moment de la naissance de Jésus. Donc le peuple d'Israël va quitter l'Égypte, va s'installer dans le pays de Canaan, va connaître une sorte de croissance, d'expansion, jusqu'à une apogée, on peut dire, vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, avec le roi Salomon, qui va régner sur un territoire assez large et en paix. Malheureusement, ensuite, ce sera l'époque des rois. La nation va connaître un déclin qui va mener à l'exil d'Israël en 722 avant Jésus-Christ. Puis, comme le pays s'est divisé entre-temps entre Israël et Juda, il va y avoir ensuite l'exil de Juda un peu plus tard. Puis, on arrive aux prophètes. Enfin, on arrive à... Il y a toute une série de prophètes, un peu avant l'exil ou un peu après. Le dernier, c'est Malachie, qu'on peut dater à 420 avant Jésus-Christ. Bon, un autre événement qu'on va situer, moins 175 avant Jésus-Christ, ça ne nous est pas relaté dans la Bible, mais il y a l'épisode des Maccabées qui est important. Il faut bien le situer, vous voyez, c'est à peu près 200 avant Jésus-Christ. On en reparlera. Alors, on va regarder un petit peu donc Israël, l'histoire d'Israël souverain sur son territoire se termine au moment de l'exil. Entre-temps, Juda est apparu à la mort de Salomon. Juda va être quand même autonome encore un petit peu plus tard, mais va être lui aussi battu et exilé. Et donc, plusieurs nations vont régner sur le territoire d'Israël. D'abord l'Assyrie, à partir de l'exil d'Israël. Donc l'Assyrie. Puis, à partir de l'exil de Juda, c'est la Chaldée, donc avec Babylone. Ensuite, ce sera la domination perse, puis la domination grecque, et enfin la domination romaine. Alors, où se situe l'histoire de Daniel? Eh bien, un peu à cheval sur l'époque chaldéenne et l'époque perse. On fait un zoom un petit peu plus important. Voilà. On peut situer maintenant, voir en détail les temps de l'exil. Vous voyez, exil d'Israël 722 avant Jésus-Christ. Donc, Israël est envahi par les Assyriens. Juda, lui, est autonome. Mais en 607 avant Jésus-Christ, à son tour, Juda va être vaincu, mais par les Babyloniens, les Chaldéens, si vous préférez. Ensuite, en 537, il y aura un retour de Juifs, donc de personnes de Juda, qui vont revenir à Jérusalem pour reconstruire le temple, puis pour construire la muraille. Entre-temps, ce sont les Perses, c'est-à-dire ce sont les Perses qui autorisent les Juifs à revenir à Jérusalem. Ce sont les Perses qui dominent. Là, on peut situer le livre d'Esther, si vous voulez, un peu plus loin, au moment des rois de Perse, d'Assuérus, un des rois de Perse. Et puis, le retour, alors il y a eu le premier retour, c'est celui d'Esdras pour le temple, et ensuite le retour de Néhémie, un peu après Esther, 440 avant Jésus-Christ. Là, on va reconstruire cette fois-ci la muraille. Et puis, on arrive à Malachie, le dernier des prophètes, au temps de l'exil. Voilà. Donc, l'histoire de Daniel, vous voyez, elle est surtout à l'époque des Chaldéens, donc des Babyloniens, mais il doit être né un petit peu avant, et puis il va aussi connaître la domination perse. On fait encore un zoom. Cette fois-ci, on va essayer de voir des repères dans la vie de Daniel. Ça, c'est la vie de Daniel, si vous voulez. On va le faire naître en 620 avant Jésus-Christ, de manière à ce qu'au moment de l'exil de Juda, il a environ 13 ans. Bon, c'est arbitraire, hein, c'est moi qui décide. Ça peut être très bien 630 ou 625, je ne sais pas exactement. Il a peut-être 15 ans, 20 ans, quand il a été exilé avec les Juifs à Babylone. Donc en 607, bon ben voilà, il y a les derniers rois de Juda là qui sont là, et puis Joachim à la fin, et donc c'est l'exil. C'est l'exil, donc Daniel fait partie de ceux qui partent de Jérusalem et qui sont transportés en direction de Babylone. Là on est sous le règne de Nabucodonosor, que la Bible d'Arbi appelle Nebuchadnezzar. Bon, moi je l'appellerai Nabucco, hein, parce que c'est plus simple. Entre-temps, bon, ben, il y aura l'épisode du rêve de Nabucco, il y aura la fournaise. Ensuite, il va y avoir le règne de Belshazzar. Là, c'est l'épisode du festin de Belshazzar. Puis, les Chaldéens, les Babyloniens sont vaincus par les Perses. Et donc, là, on arrive à un nouveau roi qui s'appelle Darius. Et donc, c'est à ce moment-là que va avoir lieu l'épisode de la fosse aux lions. Bon, admettons que Daniel est peut-être mort un peu après, les années à peu près 530. Voilà, pour vous situer au niveau chronologique. Alors, un peu plus de précision sur les Chaldéens, donc les Babyloniens, si vous préférez. La capitale de l'Empire chaldéen, c'était Babylone. C'est surtout Nabucco, donc, qui va nous intéresser. On connaît les dates de sa vie par l'histoire profane, 630 à 562. Tout commence avec son père, Nabopolassar. Ils avaient des noms à coucher dehors, hein, ces Chaldéens. Hein. Je ne sais pas si sa femme l'appelait comme ça, d'ailleurs. Peut-être qu'elle l'appelait Nabo, mais ça ne devait pas être très agréable. Alors, ce Nabopolassar, quand même, il a battu les Assyriens, et donc c'est lui qui a fondé un peu le nouvel empire babylonien, qui a donné toute son importance à cet empire des Chaldéens. Ensuite, c'est son fils, Nabucco, qui va soumettre Jéhoiakim, donc le dernier des rois de Juda. Bon, et puis il va y avoir quand même une continuité dans les rois de Juda, hein, même si c'est sous la domination de Nabucco, Jéhoiakim. Mais Jéhoiakim va se montrer un petit peu rebelle, il va être remplacé par Sédécias, et puis Sédécias va à son tour se montrer rebelle, et ça va finir en 585 avant Jésus-Christ, par la destruction de Jérusalem. Mais c'était bien avant que Nabucco avait déjà contrôlé, on peut dire, le territoire de Juda. Voilà, une carte de l'Empire babylonien, du nouvel Empire babylonien. Vous voyez, c'est la zone qui est repérée par un trait rouge. Il y avait un très ancien empire babylonien qui avait eu une apogée vers l'an 1750 avant Jésus-Christ. Et on assiste à une sorte de résurgence de cet empire qui va s'étendre vers la Syrie et vers la Judée, au temps donc de Nabopolassar et de Nabucco, environ 600 avant Jésus-Christ. Après donc la chute de l'empire assyrien. La capitale de la Chaldée, donc, c'est Babylone. Alors Babylone, c'était une ville, comment dire, splendide, hein, qui était fameuse pour ses jardins suspendus. On dit que c'était une des sept merveilles du monde antique. Alors, vous voyez des jardins comme ça sur des étages, hein, perchés sur des toits. Il y a également la porte d'Ishtar qui a été rénovée aujourd'hui. On a retrouvé, hein, le site de Babylone, on a fait des rénovations, on a remis en état certains endroits. Donc la porte d'Ishtar, vous voyez, c'est assez splendide, c'est grand, c'est beau. Ici, vous avez une reconstitution de ce que pouvait être le palais royal, donc de Nabucco. Vous avez également le temple de Marduk. Alors, temple de Marduk, je ne sais pas si vous voyez la flèche, non. Voilà. Temple de Marduk, c'est ça. Donc Marduk, c'était le dieu. C'était le dieu des Chaldéens, des Babyloniens. Et puis vous avez ici ce qu'on appelle l'Étéménanki. Alors c'est cette espèce de tour ou de ville en espalier, si vous préférez, ce qu'on appelle une ziggourat. Hein, c'était un lieu aussi où on célébrait des fêtes religieuses. C'était assez typique de cet endroit. C'était une sorte de tour de Babel locale. Hein, c'est une sorte de résurgence de la tour de Babel. C'était un peu le concours à ceux qui allaient faire la tour la plus haute. Voilà. Alors. Ça c'est pour les Chaldéens, Babylone. Ces Chaldéens donc ils sont idolâtres bien sûr. Ils adorent Marduk, enfin en tout cas Marduk c'est le dieu de la ville de Babylone. C'est un peu l'équivalent de Baal ou de Bel, c'est-à-dire que c'est un dieu agraire, un dieu agricole si vous préférez. Mais qui à Babylone est devenu petit à petit le dieu suprême, le dieu le plus important. Les Babyloniens aussi ont une civilisation assez, assez novatrice. En mathématiques, c'est eux qui ont inventé la base 10, la base 60 pour les minutes. Ils ont fixé pi à 3,12, ce qui n'est pas si mal, puisque c'était 3,14 en réalité. Ils ont inventé les fractions, les racines carrées. Au niveau de l'astronomie, ils ont fait les premières cartes du ciel. En même temps, malheureusement, ils ont inventé l'astrologie. Au niveau de la médecine, ils ont inventé la notion de diagnostic et de pharmacologie, faire des listes de produits qui soignent telle et telle maladie. Vous voyez, c'était une civilisation assez prospère. Alors, dans ces Chaldéens, donc, il y a eu Nabucodonosor, et ensuite il y a eu Belshazzar. Alors ce Belshazzar, on a douté de sa réalité historique pendant longtemps. Enfin, on a commencé à ne plus en douter quand même au XIXe siècle, en 1879, quand on a retrouvé à Bagdad un livre qui s'appelle « Les chroniques de Nabonide ». Parce que, normalement, le fils de Nabucco, c'était Nabonide. C'était lui le roi, normalement. Belshazzar, on ne savait pas qui c'était. Et on s'aperçut que dans ces chroniques de Nabonide, déclare qu'il laisse finalement la régence de Babylone à son fils, Balthazar, ou Belshazzar. Donc on a retrouvé ce Belshazzar, l'existence de ce Belshazzar, à qui son père avait finalement confié Babylone. Donc il est bien historique, ce Belshazzar. Alors on passe maintenant aux Perses. Donc les Perses vont vaincre les Babyloniens et donc vont installer leur empire. C'est Cyrus qui va être un peu le fondateur de l'empire perse. Donc vous voyez, il a vécu un peu plus tard, 576 à 529. En 550, déjà, il a commencé par soumettre les Mèdes. Et donc c'est devenu un peu l'empire médo-perse. Et en 539, c'est là qu'il renverse les Babyloniens. Au moment où Daniel est à Babylone, vous rappelez, le festin de Belshazzar, Daniel annonce que le royaume va être divisé, donné aux Mèdes et aux Perses. La nuit suivante, les Perses entrent dans la ville, on est en 539, et donc maintenant Daniel va être au service des Perses. Et en 537, c'est-à-dire 2 ans plus tard, Cyrus va permettre aux Juifs de revenir à Jérusalem pour reconstruire le temple. On en a parlé dans le livre d'Ésaïe, il était annoncé, hein, déjà bien longtemps à l'avance, qu'il y aurait cet empereur perse qui permettrait aux Juifs de revenir à Jérusalem. Voilà l'empire de Cyrus. Vous voyez, c'est encore plus grand que l'empire babylonien. Peut-être moins prospère, mais c'était en superficie, c'était plus grand. Voilà, avec comme capitale Suse. Alors, je ne sais pas si on le voit ici. Suse. Et puis, il y a eu plusieurs capitales. Hein. Il y a aussi eu Persépolis et Ecbatane. Mais enfin, en général, c'était Suse qui jouait le rôle de capitale. On appelle ça l'empire perse achéménide parce que cet empire aussi, il a eu des phases comme ça d'apogée et de déclin. Et là, achéménide parce que le fondateur de la nouvelle dynastie, c'était Achéménès, qui était le grand-père de Cyrus. Et petit à petit, de père en fils, ils ont réussi à reconstruire ce grand empire. Alors, il y a eu Cyrus, donc ensuite il y a eu Darius le Mède. Là aussi ça pose un petit problème aux historiens. On connaît un Darius le Perse. Alors lui c'est un arrière-petit-neveu de Cyrus, quelque chose comme ça. C'est un des empereurs perses qui a vécu plus tard, Darius Ier, Darius le Grand. Mais ça ne peut pas correspondre à ce Darius contemporain de Cyrus, et qui en plus est appelé le Mède, pas le Perse. Donc c'est forcément pas lui. Alors on a fini par se dire que c'était sûrement un certain Goubarou, ou Gobrias, parce que là encore, dans les chroniques de Nabonide, on lit qu'après son entrée dans la ville, Cyrus installa Goubarou comme gouverneur des gouverneurs à Babylone. Donc il y a eu une sorte de représentant de Cyrus installé à Babylone en tant que gouverneur des gouverneurs. Et donc c'est certainement ce que la Bible appelle Darius le Mède. Voilà. Donc il était là à Babylone, Cyrus étant peut-être préoccupé par ses conquêtes et donc absent. Et donc c'est lui qui a jeté Daniel dans la fosse aux lions. Alors voilà pour l'époque. Maintenant, on va faire un petit survol de la vie de Daniel. Alors là, je crois que les enfants vont retrouver des choses qu'ils connaissent. On va commencer par la première époque. Il vient d'arriver à Babylone. On peut appeler ça l'épisode des mets du roi. Donc il est déporté avec ses amis, avec sa famille, à pied certainement, hein, de Jérusalem jusqu'à Babylone. On va les amener dans le palais de Nabucco. Là, on va prendre des jeunes gens qui paraissent instruits, qui paraissent en bonne santé, etc., pour en faire des serviteurs du roi. On va leur proposer de manger à la table du roi, mais Daniel va décider qu'il ne se souillera pas avec les mets du roi. Alors, on comprend pourquoi. Certainement que dans ces aliments, il y avait peut-être du porc, il y avait des choses qui étaient sacrifiées aux idoles. Tout ça, c'était interdit d'en manger dans la loi de Moïse. Donc, il s'agissait simplement de respecter la loi des Hébreux que Dieu avait donnée à Moïse. Donc, Daniel a voulu être fidèle à cette loi. Alors, on va leur donner des légumes à manger, à Daniel et à ses trois amis. Et puis, on va s'apercevoir qu'au bout d'un certain temps, ils seront en meilleure santé que les autres. Donc, on va continuer comme ça. Alors, cette première histoire, voilà, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Je vais essayer chaque fois de faire ressortir peut-être des leçons que nous amène Daniel. Bon, voilà, il prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Voilà. Il a du courage, Daniel. Tout le monde fait comme ça. Imaginez tous ces jeunes esclaves qui arrivent un peu de tous les pays, qui sont prisonniers, à qui on fait l'honneur de manger à la table du roi. Il aurait pu dire, ben voilà, Dieu nous a abandonnés, on a perdu la guerre, mais où est notre Dieu? On va faire comme tout le monde, tant pis. Eh bien non, il est quand même fidèle à son Dieu. Il sait dire non résolument. Alors nous aussi, quelquefois, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non à ce qui se fait autour de nous. Peut-être même dans des moments de découragement où notre foi a un peu tendance à diminuer. Eh bien voilà, on va quand même vouloir être fidèle au Seigneur, malgré tout. Et puis, il est récompensé, on peut dire. À la fin de cette période, on put constater qu'ils avaient meilleure mine et avaient pris plus de poids que les jeunes gens nourris des mets de la table royale. Voilà. Et ça semble me montrer un principe qu'on pourrait résumer de la manière suivante, la piété conserve. Voilà. C'est-à-dire que quand Dieu nous demande quelque chose, c'est pas, ou nous interdit quelque chose, c'est pas juste pour nous embêter, c'est au contraire parce qu'il sait très bien que ces choses ne nous sont pas profitables. Et je crois d'ailleurs que c'est un peu la définition du bien et du mal, ça. Hein, le mal, c'est pas que Dieu a décidé arbitrairement que ça c'était mal, c'est que simplement ce sont des choses qui nous sont nuisibles à nous ou aux autres, peut-être à court terme, peut-être à moyen terme, à long terme, mais ce sont des choses qui sont nuisibles. Donc voilà, la piété conserve, d'une manière ou d'une autre. Hein, c'est pas toujours visible comme ça, à très court terme, mais d'être fidèle à Dieu, d'être sobre, toute chose, bon, on sait bien que c'est meilleur pour la santé. Alors, on passe maintenant à la deuxième époque, deuxième étape, deuxième péripétie, c'est le rêve de Nabucco. Donc, il fait un rêve, ce Nabucco. Et il va donc le dire à ses sages, à ses magiciens. Voilà, j'ai fait un rêve. Mais alors, il est vraiment embêtant parce que non seulement il voudrait qu'on lui interprète son rêve, mais en plus, il ne se rappelle plus du rêve. Alors, ça devient très compliqué pour tout le monde, là. Alors, il est très fâché parce qu'aucun des sages n'est capable de l'interpréter. Daniel va l'apprendre. Il va se réunir avec ses trois amis et tous les quatre, ils vont prier. Ils vont demander à Dieu de révéler le contenu, non seulement le contenu, mais aussi l'interprétation du rêve. Et donc, c'est ce que Dieu va faire. Et donc, Daniel va pouvoir redire à Nabucco qu'est-ce qu'il a rêvé et lui donner une interprétation. Alors là aussi, deux petites choses exemplaires. Voyez comment réagit Daniel quand il apprend qu'il y a eu ce rêve. Aussitôt, Daniel se rendit chez le roi pour le prier de lui accorder un délai afin qu'il puisse lui communiquer la signification de son rêve. Et il ne s'est pas précipité pour dire « Oh, attends, je vais te donner l'interprétation, ne t'inquiète pas. » Il demande un délai. Alors, vous voyez, ça, quelquefois, c'est une bonne réaction. Quand on discute avec des personnes non chrétiennes, on nous pose une question. Peut-être on voudrait tout de suite répondre, donner notre avis, alors qu'on ne sait pas trop, éventuellement. Il faut savoir dire, j'avoue que je ne m'étais pas posé la question, je vais y réfléchir, et puis je te répondrai demain. Vous voyez, je crois qu'il vaut mieux dire ça que de dire quelque chose un peu rapidement, et puis que les gens soient déçus ou que ce soit un peu faux, ce qu'on dit. Savoir différer une réponse, voilà, pas jouer les cracks. Hein, on a le droit aussi de ne pas savoir et d'y réfléchir. Alors Daniel, il va ensuite en parler avec ses amis. Daniel raconta toute l'affaire à ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria, et les invita à implorer la bienveillance du Dieu du ciel au sujet de ce rêve mystérieux, afin de ne pas être exécuté avec les autres sages de Babylone. Ça aussi, c'est un bon réflexe chez Daniel. Il a des amis chrétiens, déjà, et c'est important d'avoir des amis chrétiens, des amis croyants pour lui, en tout cas, il n'était pas chrétien à l'époque, il était croyant. Et de prier ensemble, voilà. De savoir trouver des amis avec qui on va pouvoir partager et prier ensemble. C'est important, je trouve, quand on est jeune, surtout, d'avoir des amis avec qui on prie, on peut prier. Si on n'a que des amis avec qui on ne peut pas prier, je ne sais pas si c'est des très bons amis. Troisième épisode, la statue d'or. Alors ça ne concerne pas directement Daniel, c'est plutôt ses trois amis. Donc Nabucco, qui est un petit peu orgueilleux, a fait faire une grande statue. Et donc il veut que chaque fois que la musique retentit, tout le monde s'incline devant la statue. Et les trois amis de Daniel, eh bien, eux, ils vont refuser. Vous les voyez sur la deuxième image, en haut à droite. Tout le monde, il y a eu la musique, tout d'un coup, hop, tout le monde se met à genoux devant la statue, et eux, ils restent debout. Alors on les voit, bien sûr. Et puis on va les dénoncer. On va les jeter dans la fournaise. Et là, ils vont être miraculeusement épargnés, ils ne vont pas brûler. Il y a même un personnage, un quatrième personnage, qui va se retrouver là au milieu d'eux, comme pour les délivrer. J'en reparlerai tout à l'heure, sur le plan prophétique, mais pour l'instant, on parle de l'histoire. Bon, c'est intéressant cette histoire-là, que c'est quand la musique retentit qu'il faut s'incliner, il faut adorer la statue. Aussitôt que vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuque, du psaltérion, de la musette et toute espèce de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que Nebuchadnezzar, le roi, a dressée. Ça fait un peu penser à la place de la musique dans la société moderne. La musique est, comment dire, est un peu au service des idoles, de l'adoration des idoles. Il y a des idoles musicales, il y a des idoles, des stars, qu'il faut quand même le reconnaître, deviennent vraiment des idoles. Quand quelqu'un fait des kilomètres et des kilomètres pour ne pas rater un seul concert du même artiste, on peut dire qu'on en est quand même au stade de l'idolâtrie, ou que là, sa chambre tapissée de posters et tous les CD qui sont sortis de ce chanteur, bon, il me semble que ça prend une place quand même un petit peu importante, qui s'apparente à l'aide de l'idolâtrie. Alors est-ce que nous, quand on écoute de la musique, on écoute de la bonne musique, enfin on écoute de la musique parce que c'est de la bonne musique, ou est-ce qu'on est vraiment prosterné devant ces artistes qui sont tellement doués? Il faut se poser la question. Est-ce qu'on écoute ou est-ce qu'on adore? Et donc aussi, on peut voir le courage de ces jeunes. Ils sont convoqués devant le roi et ils répondent, ils n'ont pas peur. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as dressée. Voilà. Ça veut dire qu'ils ont la force d'une bonne conscience. Ils sont tranquilles parce qu'ils sont, ils ont une bonne conscience devant Dieu. À partir de là, ils n'ont peur de rien, on peut dire. Voilà. Il y a un verset dans les Proverbes qui dit « Le méchant se sauve quand personne ne le poursuit, mais les justes sont pleins d'assurance comme un jeune lion. » Il y a des gens qui n'ont pas la conscience tranquille. Bon, il va peut-être changer de trottoir parce qu'ils ont vu la police au bout du trottoir. Ça, c'est quelqu'un qui a mauvaise conscience, quelque chose à se reprocher. Au contraire, quand on est, qu'on a bonne conscience, on est à l'aise devant Dieu, eh bien, ça nous donne une certaine hardiesse. Bon, faut pas non plus jouer les provocateurs, mais voilà, ça donne du courage parce qu'on a franchement rien à se reprocher. Donc, on peut se tenir debout comme ça devant des gens qui nous demandent des comptes parce qu'on a la conscience tranquille. Donc, il faut cultiver cet état-là. Quatrième épisode, c'est la fin de Nabucco. Alors, il va faire encore un autre rêve, hein. Il rêve d'un grand arbre abattu. Alors, c'est une manière d'annoncer qu'il va un petit peu décliner. Mais il va s'enorgueillir, il est là, il regarde sa ville, « N'est-ce pas là, Babylone la grande, que je me suis construite ?» Et alors, Dieu va le punir, il va devenir fou. Il va se mettre à manger l'herbe des champs, comme les animaux. Heureusement, il va quand même se réveiller un petit peu dans son esprit et retrouver un état normal. Alors, ça aussi, c'était intéressant. C'est Nabucco, là, qui nous donne des images intéressantes. Regardez ce qu'il dit de ce qu'il a fait. Le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la Grande, que j'ai bâtie pour être la maison de mon royaume, par la puissance de ma force, pour la gloire de ma magnificence ?» Il n'y a que des « me », des « moi » et des « mon » là-dedans. Hein, c'est « moi », »,« pour moi » et « par moi ». Voilà, donc il est en train de se vanter. « Moi, mon, par moi et pour moi ». Alors il est en train de faire le fanfaron. Et ça, devant Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire. Toujours rester humble. Il y a un verset qui dit dans les Proverbes, « Laisse aux autres le soin de chanter tes louanges, qu'un étranger le fasse plutôt que toi-même. » Si les autres nous trouvent tellement remarquables qu'ils nous disent du bien de nous, ben, tant mieux. Hein, laissons-les faire. Enfin, on ne va pas non plus courir après, mais bon, ben, pourquoi pas. Mais ce n'est pas à nous à faire notre publicité. Voilà. Et donc, il se met à brouter de l'herbe à ce moment-là. Il se met à manger de l'herbe, donc il est un petit peu rabaissé. Alors ça, c'est toujours un principe dans la Bible. Celui qui s'élève sera abaissé. Hein, c'est un peu automatique. C'est le Seigneur Jésus qui a dit ça dans Matthieu 23, verset 12. Celui qui s'élève sera abaissé. Tous les hommes qui ont été orgueilleux, ils ont été brisés devant Dieu. Et vice-versa, celui qui s'abaisse sera élevé. On le voit avec le Seigneur Jésus qui s'est abaissé et qui maintenant a été élevé à la droite de Dieu. Ensuite, il y a le festin de Belshazzar. Alors, c'est aussi connu. Donc, le petit-fils de Nabucco va organiser un grand festin. Et il va commettre une grave erreur. Il va utiliser des ustensiles qu'on avait confisqués dans le temple de Jérusalem pour boire dedans. Des ustensiles sacrés du temple. Il va y boire avec ses femmes, ses concubines. Enfin, tout ça se passe un peu dans la débauche. Et donc là, il y a une main qui va venir écrire sur le mur « Mene, Mene, Tekel, Upharsin ». Donc, ce qui veut dire compter, peser, diviser. Et donc, ce qui annonce que son royaume va être, que Dieu l'a jugé insuffisant à ce Belshazzar moralement, et donc son royaume va être divisé. Donc, effectivement, c'est ce qui va se passer la nuit suivante, où les Perses vont prendre possession de Babylone. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend? On peut dire qu'il y a ici plusieurs péchés que commet Belshazzar. Il y a déjà l'alcoolisme, il est excité par le vin. Il y a un petit peu le blasphème, il va prendre les ustensiles du temple. Il est là avec ses concubines, donc concubinage. Il est en train de louer les dieux d'or, idolâtrie. Vous voyez, tout ce mélange de choses mauvaises. Et on peut dire qu'encore de nos jours, ben, c'est un peu des choses qui vont ensemble. C'est tout ce qui... Voilà, c'est un peu ce que moralement fait qu'un être humain se dégrade. Alcoolisme, blasphème, concubinage, idolâtrie, tous ces désordres, mais ça fait un tout, et quand on commence avec un, ben il y a des chances qu'on continue avec les autres. Et donc, il va être averti par Daniel, on va aller chercher Daniel, qui n'était pas à ce festin, visiblement, puisqu'on va le chercher, et là, Daniel va lui dire la vérité. Il lui dit quand même des choses terribles. Il lui dit que son royaume va être divisé. Donc il fallait quand même du courage pour dire ça. Alors on en a parlé avec les jeunes, un peu pareil que pour Jean-Baptiste. Il a dit des choses aussi à Hérode qui demandaient du courage, mais il l'a fait. Donc il faut savoir assumer. Alors il faut remarquer qu'il n'est pas venu de lui-même pour venir donner des leçons à tout le monde. On a été le chercher. Voilà. Alors je crois que pour nous c'est un peu pareil. Si on voit des gens qui commettent des choses mauvaises, on ne va peut-être pas aller leur lancer à la figure comme ça directement. Mais en tout cas, s'il nous pose la question de savoir qu'est-ce qu'on en pense, ben là, il faut avoir le courage de dire la vérité. Ce n'est pas la même démarche. L'un, c'est le donneur de leçons. L'autre, c'est ben, on assume la vérité. Si on nous dit, ben, je fais ça, qu'est-ce que tu en penses, toi, tiens, qui es chrétien, par rapport à la Bible, c'est bien ou c'est pas bien? Bon, ben, là, il faut assumer. Hein. Il faut dire ce que la Bible dit. Hein. Vous voyez, ce n'est pas de la provocation, mais c'est dire la vérité. Et puis ensuite, pour terminer, il y a l'épisode de la fosse aux lions. Donc voilà, donc il y a les satrapes, c'est au temps de Darius, qui sont jaloux de Daniel, donc ils vont faire un complot, c'est-à-dire qu'ils vont proposer au roi que pendant un certain temps, tous ceux qui prieront autre chose que le roi vont être jetés dans la fosse aux lions. Daniel va continuer à prier, comme il fait d'habitude, et il va se trouver dans la fosse aux lions. Et Dieu va le délivrer. Alors, on peut souligner ici, ce qui est dit de Daniel, il ne pouvait trouver aucun sujet d'accusation ni aucune faute parce qu'il était fidèle. On peut se poser la question, nous, les gens qui nous connaissent, qui sont avec nous, camarades, collègues, voisins, est-ce que vraiment ils peuvent dire, lui, on aurait beau chercher, qu'est-ce qu'on peut redire contre? Bon, je dis ça en toute humilité, hein, je ne sais pas si on peut le dire de moi, voilà. Alors vous voyez, c'est quand même un crible un peu exigeant. Est-ce que vraiment les gens qui nous observent, ils peuvent dire vraiment on n'arrive pas à trouver quelque chose de mauvais chez cette personne? En tout cas, on devrait en arriver là. Et puis donc, Daniel, il continue. continue à prier, même s'il y a un écrit qui est signé. Voilà, il obéit à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors on a aussi les apôtres dans le livre des Actes qui font de même. On leur interdit d'annoncer l'évangile, ils continuent à le faire. Donc le chrétien aussi doit toujours mettre en priorité Dieu, même par rapport aux autorités, il faut l'assumer, hein, je dis ça publiquement, voilà, c'est une position chrétienne. Alors évidemment, en France, je ne vois vraiment pas dans quel cas on pourrait avoir besoin d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je ne vois pas qu'est-ce que le gouvernement français pourrait nous demander, nous obliger à faire que notre conscience ne permettrait pas, ou que le gouvernement français nous interdirait de faire que Dieu nous demande expressément. Donc à partir de là, n'allons pas en profiter pour faire n'importe quoi, hein, ne pas respecter les lois. Mais voilà, hier soir on parlait de l'Algérie. Bon, l'Algérie, il interdit d'évangéliser des musulmans. Les chrétiens évangélisent quand même des musulmans, même si c'est illégal. Ils obéissent à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que Jésus nous a dit, allez, faites disciples toutes les nations, les baptisant, pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un ordre du Seigneur Jésus. Alors si le gouvernement nous interdisait totalement d'évangéliser, mais il faudrait continuer. Peut-être avec prudence, avec sagesse, bien sûr, mais c'est un devoir qui nous est demandé, donc il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, dernier petit épisode de la phase de l'histoire, hein, de Daniel, c'est le chapitre 9, quand même, il va faire une prière, il va prier pour son peuple, pour le peuple d'Israël. Et cette prière, elle est très belle, je vais vous en montrer juste deux extraits. Ce qui me frappe dans cette prière, c'est déjà que si vous voulez, lui, il est quand même dans un palais à Babylone, il n'est pas trop mal loti. Il pourrait se dire, bon, ben, moi je suis bien, tant mieux pour moi. Mais il se sent quand même solidaire avec son peuple. Il n'a pas oublié son peuple. Et ça nous parle. Quand la vie, des fois, on la vit un peu difficile, puis quand la vie devient facile, on aura un peu tendance à oublier ceux qui sont dans la difficulté. Est-ce qu'on se sent solidaire de ceux qui sont toujours dans la souffrance? Et puis en plus, il se sent solidaire du péché de son peuple. Hein. Il ne dit pas, oh, les Israélites, ben, ils l'ont bien mérité, on l'a bien mérité, tant pis. Non, il va reconnaître devant Dieu les péchés de son peuple. Alors nous aussi, il y a deux attitudes. On peut critiquer l'Église parce que si, parce que là, ou bien on peut se sentir solidaire et prier pour que les choses s'améliorent. Vous voyez, ce n'est pas la même attitude. C'est un peu facile de jeter la pierre, de dire l'Église ou mon Église locale, elle a tel défaut. Ça, c'est facile, tout le monde peut le faire. Mais par contre, faire en sorte que ça s'améliore, ça c'est un autre programme. Alors il faut, c'est mieux de rentrer dans cette dynamique. Hein. Et puis, on voit dans sa prière, hein, qu'est-ce qu'il dit, quels sont ses arguments un peu pour prier Dieu. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif et agis, ne tarde pas à cause de toi-même, mon Dieu, car ta ville et ton peuple sont appelés de ton nom. Et il insiste sur le fait que c'est la ville de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Et donc il en va de la gloire de Dieu. Alors nous aussi, je crois que c'est comme ça qu'il faut voir l'Église, et aussi notre assemblée locale, c'est le peuple de Dieu, c'est la famille de Dieu, c'est le corps de Christ, c'est l'épouse de Christ. Donc c'est ça qui est important, et c'est ça qui nous motive, et qui est aussi une bonne raison de prier pour ce peuple. Alors je vous propose de faire une petite pause, on va se lever, et je vous propose de chanter ce cantique. Gloire à Jésus dans l'Église. Gloire à notre Rédempteur, à nos mots il sympathise, il nous porte sur son cœur. Le temps fuit, le jour approche, quand nous tout montre Jésus, qui nous trouve sans reproche et publiant ses vertus. On peut chanter tout entier. voir. Alors, jusqu'à présent, je pense que j'ai dit que des choses que vous connaissiez. Hein, je ne vous ai pas appris grand-chose. Donc, on va passer maintenant aux prophéties. Là, c'est un petit peu moins connu. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais vous donner un aperçu des prophéties de Daniel. Donc, si vous voulez, c'est d'abord le songe de Nabucco. Ensuite, deux épisodes que j'ai choisis, la fournaise et la fosse aux lions, dans lesquels on voit peut-être une manière allégorique d'annoncer la venue du Seigneur Jésus. Et puis alors ensuite, il y a les cinq visions des chapitres 7 tout d'abord, chapitre 8, deuxième vision, chapitre 9, troisième vision, chapitre 10, quatrième vision. Et puis vous avez une cinquième vision qui couvre les chapitres 11 et 12. Mais personnellement, je les ai découpés en deux, parce que dans ces deux chapitres, ça ne s'arrête pas à la fin du chapitre 11, malheureusement, mais on voit qu'il y a une rupture à un moment donné entre ce qui est d'un futur proche et d'un futur lointain. Donc pour moi, j'en ai fait deux parties, la domination grecque et les temps de la fin. Alors on va les prendre une par une. Bon, déjà le songe, donc le rêve de Nabucco. Alors voilà ce qu'il a vu, toi, au roi, c'est Daniel qui lui dit, parce que lui, il ne s'en rappelait plus. Tu voyais, voici une grande statue. Cette statue était grande, sa splendeur extraordinaire, elle se tint devant toi, son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu vis jusqu'à ce qu'une pierre se détachât sans main. Et elle le frappa la statue dans ses pieds de fer et d'argile et les broya. Alors furent broyés ensemble le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la balle de l'air d'été. Et le vent les emporta, et il ne se trouva aucun lieu pour eux, et la pierre qui avait frappé la statue devient une grande montagne, et remplit toute la terre. C'est là le songe, et nous en dirons l'interprétation au roi. Et donc Daniel va donner à Nabucco l'interprétation de ce rêve. Je l'ai résumé sous forme d'un tableau, donc c'est la suite, à partir du verset 37 jusqu'au verset 45. Il lui dit, voilà, la tête d'or, ben, c'est toi. Hein, c'est toi, Nabucco, donc c'est les Chaldéens, les Babyloniens, l'Empire babylonien, donc. Ensuite, il va être remplacé par un autre royaume, la poitrine et les bras d'argent. Donc ça, s'il lui dit, c'est l'Empire qui va venir après toi, donc on comprend que c'est les Mèdes et les Perses, donc à partir de Cyrus. Puis il lui dit, il y a le ventre et les cuisses des reins, donc c'est un troisième empire. Quel est le troisième empire qui a succédé aux Perses? C'est l'empire grec, avec Alexandre le Grand, qui a été le conquérant de l'empire grec. Et puis ensuite, en dessous, il y a des jambes de fer et d'argile, donc ça sera un quatrième empire, dont Daniel va dire qu'il écrasera tout, on voit ça au verset 40, mais qu'il aura des faiblesses, un mélange de fer et d'argile qui le rend fragile. Et qui verra naître le roi des rois, celui qui dominera, qui établira un royaume qui ne prendra pas fin. Alors ça, c'est intéressant. Alors on comprend que l'empire qui suit l'empire grec, ben, c'est l'empire romain, ça l'histoire nous l'apprend. Hein. Effectivement, il domine tout le Moyen-Orient, il va même dominer tout le pourtour méditerranéen, mais il va aussi connaître sa décadence, il va s'effondrer, l'empire romain. Et ce qui est intéressant, c'est que, est-ce que pendant cette période est né celui qui va établir le royaume éternel? Eh bien oui, puisque le Seigneur Jésus est bien né à l'époque de l'Empire romain, hein, sous César Auguste, on pense en l'an moins 4 avant Jésus-Christ, donc on est bien à l'époque de l'Empire romain. Voilà, donc ça c'est une première prophétie, où là on voit déjà l'annonce du Seigneur Jésus en tant que roi des rois, celui qui va établir un royaume qui ne prendra pas fin. Ensuite, la fournaise. Bon, la fournaise, c'est une histoire, c'est pas une vision, hein, c'est quelque chose qui s'est passé. Mais il y a un détail intéressant dans cette fournaise, vous le savez, donc c'est qu'il y a au milieu de la fournaise un personnage qui apparaît. Voilà ce qui est dit. Il répondit et dit, voici, je vois quatre hommes déliés se promenant au milieu du feu, et ils n'ont aucun mal. Et l'aspect du quatrième est semblable à un fils de Dieu. Voilà que se trouve au milieu des trois amis de Daniel, quelqu'un de semblable à un fils de Dieu. Alors c'est décrit avec les mots de celui qui voit, c'est comme un fils de Dieu. C'est quand même extraordinaire qu'il soit dit ça. Alors qu'est-ce que ça peut bien signifier? Eh bien, si le fils de Dieu, c'est le Seigneur Jésus, qui vient là, délivrer ces trois jeunes Hébreux, qu'est-ce que peut bien signifier le feu? Ben, ça va être le jugement de Dieu contre le péché. Hein. Et le feu, c'est les temps de feu, c'est là que les méchants seront tourmentés. Donc le Seigneur Jésus vient pour nous empêcher d'être condamnés, d'être jugés par Dieu. Et alors, autre détail, c'est qu'on s'aperçoit que les trois jeunes, il n'y a qu'une chose qui a brûlé, ce sont les liens par lesquels on les avait attachés. Et ça va peut-être aussi une image du péché. C'est-à-dire que non seulement le Seigneur Jésus nous délivre du jugement, mais en même temps, il nous délivre de la loi du péché. Il nous rend libres pour servir Dieu. Et c'est exactement ce que nous dit Romains 8, verset 2. La loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ, donc le Fils de Dieu, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. De l'obligation de péché, du côté automatique du péché, et puis de la mort, de la condamnation. Et il y a ces deux aspects dans ce que le Seigneur Jésus vient nous apporter. Délivrer du jugement, le feu, délivrer aussi de l'obligation de péché, être esclave de Satan, qui est représenté par ces liens. Voilà, donc on peut voir là une sorte de préfiguration, alors allégorique, hein, dans le récit de l'histoire, de ce que le Seigneur Jésus vient nous apporter. Aussi dans la fosse aux lions, d'une certaine manière, il y a quelque chose de messianique. On s'aperçoit que les présidents et les satrapes, on lit donc Daniel 6, verset 4, cherchent à trouver dans l'administration du royaume quelques sujets d'accusation contre Daniel. Ils ne pouvaient trouver aucun sujet d'accusation, ni aucune faute, parce qu'il était fidèle. Et qu'est-ce qu'on lit sur le Seigneur Jésus dans les évangiles? On les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques témoignages contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point. Et le parallèle entre les deux, quelqu'un d'irréprochable dont on cherche à se débarrasser. Alors on va jeter Daniel dans la fosse aux lions, on peut voir là le Seigneur Jésus qui va être mis à mort, puis on va le retirer de la fosse aux lions. Et on peut y voir la résurrection. Alors le roi fut très joyeux et dit qu'on tira Daniel de la fosse, comme Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et on peut voir sa sortie du tombeau. Et puis même, à la suite, on va donner des ordres, et on amène les hommes qui avaient accusé Daniel, et on les jette dans la fosse aux lions. Donc finalement, ce sont les méchants, là, qui se retrouvent jetés dans la fosse aux lions, et qui sont mis en pièces, d'ailleurs. Hein. Alors ça fait penser aussi au fait que, finalement, qui a été vaincu à la croix? Ben, ce sont les puissances de méchanceté, comme nous dit l'Épître aux Colossiens. Ayant dépouillé les principautés et les autorités, il les a produites en public, triomphant d'elles en la croix.